France Musique.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Pourquoi n'en fais pas ?
Et dans cette émission, nous nous intéressons au chant choral. Ça, ce sera d'ici 20 petites minutes avec Marc-Olivier Dupin. Nous nous intéressons à la pédagogie, à la transmission, aux pratiques amateurs. Ces amateurs qui jouent pour leur propre plaisir. C'est d'ailleurs par là que tout a commencé pour les musiciens professionnels, bien sûr. Et ce matin, j'ai demandé au ténor Stanislas de Barbérac de nous raconter ses débuts et l'impact de la musique sur sa vie.
La musique me procure un équilibre, je crois. Parce que je me demande parfois, si j'arrêtais la musique, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie ? C'est une grande question. Et en fait, je me pose plus la question parce que j'ai besoin de musique pour apprécier ma vie de tous les jours, pour apprécier ma vie de famille, etc. C'est vraiment un équilibre pour moi, la musique. Alors, mon tout premier cours de musique, c'était à l'âge de 8 ans, parce que j'ai intégré la maîtrise des petits chanteurs de Bordeaux quand je me suis installé à Bordeaux avec ma famille, qui était dans l'établissement scolaire où j'étais. Et donc, j'avais plein de copains qui m'ont dit « Viens, c'est sympa, on a une chorale et tout ». Et en fait, j'ai beaucoup aimé, j'avais pas du tout cette culture-là. Premier cours, voilà, on est en randonnion, et puis on dit « bah fais des sons ». Et puis, j'ai découvert que j'avais une voix, en fait, que j'avais un truc à dire. Et même à l'âge de 8 ans, j'ai encore ce souvenir d'être tout seul devant le maître qui me disait « bah vas-y, chante quelque chose ». Et voilà, faire des vocalises, c'était mon premier contact avec la musique. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont marqué dans mon parcours musical, parce que j'ai chanté donc petit. Il y a eu donc le directeur du chœur, Patrick Gély, puis ensuite Philippe Martin, puisqu'il y a eu deux chefs de chœur successifs, parce que je suis resté quand même plus de 10 ans, 12 ans. Et il y a eu ces deux personnes, Philippe Martin qui est d'ailleurs témoin de mon mariage, donc c'est quelqu'un qui importe pour moi. Et ensuite, il y a bien sûr Lionel Sarrazin, mon professeur de chant, mais que j'ai connu plus tard quand j'ai commencé le chant à proprement parler lyrique, qui n'a rien à voir à ce que j'ai fait pendant toutes ces années de musique, et qui me suit toujours. Et voilà, un professeur de chant dans le milieu de l'opéra, c'est quelqu'un d'important. Donc je dirais qu'aujourd'hui, Lionel Sarrazin compte beaucoup dans ma vie, parce que c'est un ami aussi. Et puis c'est quelqu'un à qui je confie beaucoup de choses sur mes choix de carrière. Et puis les choix de carrière ont des conséquences sur les choix de vie privée aussi. Donc voilà, c'est une personne importante. Le plus difficile dans l'apprentissage de la musique, c'est de s'y mettre, parce que souvent on est pris un peu dans une spirale où on fait des rôles, mais il faut apprendre des nouveaux rôles aussi. Et voilà, c'est compliqué de se dire, voilà, j'ai des spectacles, des répétitions, le soir il faut que je rentre, je fais un autre répertoire, une autre langue, voilà, donc il y a tout le travail à la table, ça c'est difficile. D'avoir l'énergie pour se dire, bon, il faut que je passe 2 heures à traduire tout mon texte, à comprendre la musique de la langue, voir des coachs en dehors du temps de travail, donc ça c'est de plus en plus difficile, je dirais. Alors le conseil que je pourrais donner à des jeunes chanteurs... qui démarre la musique. En tout cas, ce qui m'a toujours guidé et que mon professeur de chant m'a dit quand on a commencé le chant lyrique tous les deux, c'est de rêver, mais de ne pas fantasmer. Et je trouvais que c'était très juste. J'ai mis beaucoup de temps à apprivoiser le concept, mais c'est vrai qu'il y a une nuance entre le fantasme d'une carrière ou de rôle que l'on veut faire et la réalité, mais la réalité n'empêche pas de rêver, de se dire tiens, j'aimerais chanter je sais pas où un jour au Covent Garden ou c'est différent, parce que le rêve, il y a quand même un souvenir souvent. Le fantasme, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait pour moi, et ça m'a toujours assez guidé, ça.
Thank you.
Ganymède de Franz Schubert, orchestré ici par Richard Strauss. Nous écoutions cette voix, Stanislas de Barberac, accompagné par l'Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbé. Il est 8h18.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est l'heure de notre reportage. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Saskia.
Expérience traumatisante en CM1. Prof de musique passe dans la classe pour faire un peu la promo de la chorale. Donc on commence, c'était l'époque d'Émilie Jolie, du coup la deuxième version d'Émilie Jolie, avec Johnny Hallyday et tout le gratin de la musique française. On commence à chanter, et puis au bout de 5-10 minutes, grand stop, et le prof de chant monte du doigt trois personnes, toc toc toc, y compris moi, et nous dit « bon bah vous trois, vous pouvez retourner en classe ». La grosse désillusion. Je suis persuadé que je chante faux, ouais. Mais je m'en rendais pas compte à l'époque. Personne m'avait dit. Si les gens me disaient, quand t'es jeune, toi tu chantes bien, toi tu chantes mal, ça permettrait d'éviter des moments d'embarras comme ça.
Et aujourd'hui, on te l'a dit ?
Que je chante faux ? Alors ma copine, tous les jours, ouais. À chaque fois que je chante, elle me dit que je massacre les chansons.
Un témoignage encore ému pour évoquer cette faiblesse qui toucherait 5% des Français. Mais la voix disharmonieuse n'est pas une fatalité, Marie. Quand la voix déraille, comment la remettre sur le droit chemin ? Cela commence par l'éducation de l'oreille.
Et oui, si vous voulez que votre enfant ait toutes les chances de son côté, il va falloir s'y prendre tôt, comme nous le confie le neurologue Bernard Le Chevalier. Il est aussi organiste et vient de publier « Le plaisir de la musique » aux éditions Odile Jacob.
Un équipement, si vous voulez, déjà auditif chez le fœtus à partir de la 25e semaine.
Donc si on veut par exemple que notre enfant, il ait l'oreille musicale...
Oui. Eh bien, il faut que la maman l'emmène au concert. Alors moi, j'en ai l'expérience parce que mon fils, qui a l'oreille absolue, nous sommes allés à des concerts avec ma femme là, qui était enceinte, et elle disait, mais qu'est-ce qu'il a ? Je sens qu'il bouge.
Bon, et si vos parents ont raté le coche, pas de panique, tout n'est pas fichu.
Commençons par les cris, les faire crier, ensuite les faire crier sur des tonalités musicales, ensuite prendre les octaves et ensuite écouter les autres qui chantent bien et puis les reproduire. Parce que le cerveau de l'enfant est doué de plasticité cérébrale et c'est beaucoup plus facile chez les enfants que chez les adultes.
Revenons à notre traumatisé du début, Saskia, et plaçons-le entre les mains bienveillantes de Chantal Santon-Jeffrey. Elle est chanteuse d'opéra, mais aussi professeure. Première étape pour rectifier la justesse, passer par la case solfège.
En solfège, on travaille l'oreille musicale, l'écoute, la reproduction juste des notes. C'est vraiment technique pour le coup, donc c'est un peu injuste de virer quelqu'un comme ça. Il faut le faire travailler. Il y a un travail technique à faire avec un enfant, vocal, qui est assez particulier. En gros, c'est de respecter sa voix, le naturel de sa voix, le naturel de l'émission. Mais il faut attendre que l'enfant soit adulte pour vraiment travailler sa technique.
Alors, comme n'importe quel instrument, la voix se travaille. On y va progressivement. Ne vous lancez pas dans l'interprétation de l'air de La Reine de la Nuit de Mozart. Saskia, je vous vois grimacer, mais vous aurez reconnu.
Un petit peu mal. Florence Foster Jenkins, évidemment, qui a inspiré le personnage du film Marguerite de Xavier Giannoli, d'ailleurs.
Et ne vous essayez pas non plus à du Wagner ou même du Balavoine.
J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimais mieux être un oiseau. J'ai mal dans ma peau.
Mais c'est pas si mal.
Ben oui, ça, finalement, ça allait. C'était notre exclu de la chorale du début de ce reportage. Bon, allez, un petit coup de pouce signé Chantal Santon-Jeffrey.
Vous voulez la formule magique de la justesse. Travail de souffle, comme si vous avez déjà fait du yoga, ben on va travailler allongé sur son souffle, des exercices d'expiration, d'inspiration, d'appréhension du corps, des muscles qui vont fabriquer en fait ce qu'on appelle dans le jargon le soutien, qui vont faire qu'on va pouvoir donc faire de la pression sous les cordes vocales et donc projeter notre voix. Puis bien sûr tout un tas d'exercices parler, chanter, de vocalise. C'est vraiment, je peux vous donner un exemple. J'avais un élève ce matin qui avait des problèmes de justesse qui étaient un peu bas, et c'est parce que c'était en gros trop tendu, pour dire ça vite fait. Sa mâchoire était tendue, sa langue était tendue. Et donc, on a travaillé beaucoup sur la détente pour lui permettre à la voix de résonner plus simplement et organiquement, naturellement, au-dessus de ses cordes vocales. Ça n'empêche pas la résonance. Et donc, quand c'est rétabli, la justesse est aussi rétablie.
Et enfin, Saskia, si on ne parvient toujours pas à chanter juste, une dernière leçon signée La Calas. Bon, elle n'avait pas de problème à chanter divinement juste, mais elle déclarait
« Certains disent que j'ai une voix magnifique, d'autres disent le contraire. C'est une question d'opinion. Tout ce que je peux dire est que ceux qui ne l'aiment pas n'ont qu'à ne pas m'écouter. »
Tout simplement.
Tout simplement. Merci beaucoup, Marie, pour ce reportage. On vous retrouve la semaine prochaine.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre.
À réécouter sur francemusique.fr.